François Rabelais inventa, sinon le mot de gastronomie, que l'on doit à Berchou en 1801, du moins le concept. Il nous parle d'une curieuse peuplade, les gastrolâtres, qui avaient coutume de ne rien faire, de ne point travailler, craignant le ventre offensé et en maigrir. L'œuvre de Rabelais nous dresse un catalogue exhaustif des produits et des façons d'accommoder les plats. Ainsi, les œufs que l'on consomme frits, perdus, suffoqués, étouffés, traînés par les cendres ou jetés dans la cheminée, ou les andouillettes caparossonnées de moutarde. Rabelais chante aussi la science de gueule et la dive bouteille.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster un plateau volant qui atterrit cette semaine comme par enchantement à Blois. Nous dressons le couvert au cœur des rendez-vous de l'histoire de Blois, dont la 24e édition se tient depuis mercredi dernier et se clôture aujourd'hui dimanche. Merci à vous, cher public, d'être venus si nombreux. Merci. À ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Blaisoises et les Blaisois sont au rendez-vous et nous sommes à l'auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire. J'espère, chers amis, que votre enthousiasme ne va pas retomber quand je vais vous annoncer que Blois n'est pas vraiment au menu de cette émission. On va s'autoriser une petite descente de la Loire, on va passer par Tours, on va continuer encore un peu et on va s'arrêter aux confins de la Touraine, du Poitou et de l'Anjou à Chinon, ville natale d'un certain François Rabelais. C'est à ce grand écrivain de la Renaissance que nous consacrons cette émission, avec cette question à laquelle nous allons tenter de répondre. Est-ce que Rabelais, cet ogre humaniste, aurait inventé une certaine idée de la gastronomie ? Eh bien, on y répond avec nos deux invités du jour. Stéphane Saulier, bonjour !
Bonjour !
Professeur de lettres classiques au lycée ?
Janson de Sailly.
On est à Paris, hein. Il y a peut-être certains de vos élèves qui sont à l'écoute. Et parmi vos spécialités, il y a François Rabelais qui est l'un des auteurs que vous connaissez bien, surtout dans son rapport à la chose comestible.
Exactement, oui.
On va en parler avec vous tout au long de cette émission. Et puis nous accueillons également une chef, Marie Gricourt. Bonjour.
Bonjour.
Vous tenez les fourneaux de la table d'à côté, c'est à Ardon, hein. On est tout près d'Orléans.
Tout près d'Orléans.
Département
45.
Voilà, Loiret, c'est vraiment voisin d'ici. C'est la table une étoile Michelin du chef Christophe Hay. Nous l'avions accueilli parce qu'on est déjà venu au rendez-vous de l'histoire, c'était il y a 2 ans. Et on avait accueilli justement ce chef blaisois, ou en tout cas qui était à Montlivaud, qui va bientôt déménager à Blois, mais on Exactement. Racontera peut-être tout ça. Vous avez eu le prix Rabelais des jeunes talents en 2014, ça ne s'invente pas quand même. Et vous avez laissé libre cours à votre créativité pour composer des recettes à partir de produits vraiment emblématiques du répertoire rabelaisien. Allez, un petit avant-goût.
Alors aujourd'hui, on a travaillé par exemple la foisse rabelaisienne.
La foisse rabelaisienne, définition de foisse. Réfléchissez un peu, vous aurez la solution des jeux. Pendant cette émission, ils ont fait le voyage avec moi à Blois, mes chroniqueurs historiques, Elvira Masson, Dominique Hutin. Bonjour les copains.
Bonjour à Bonjour. Toutes et tous. Bonjour.
Elvira à ma gauche.
Vous m'en voulez si je quitte la région ?
Pas du tout.
Et Rabelais ?
Non plus.
Et que je vous emmène au Nouveau-Mexique ?
Carrément.
Ouais.
Nouveau-Mexique.
C'est
pour
loin,
une cuisine
hein.
pas franchement c'est... rabelaisienne.
Non, même voilà. à l'opposé.
Mais pas de question un peu d'histoire par contre. Hein.
Oui.
On est quand même au rendez-vous de l'histoire évidemment. Et Dominique ?
Bah, moi en fait pour coller au thème du festival, je vais vous parler de vie et mort du vin de labeur.
Le vin de labeur, car le travail est le thème principal des rendez-vous de l'histoire. Et puis attention, je dois vous annoncer que cette émission est sous la surveillance de Fred Lassagne. C'est un auteur de bande dessinée au premier rang. Là, il est plus connu sous la signature de Terreur Graphique. On peut l'applaudir. Et il nous vient en voisin de Tours, sachant que vous êtes, je crois, originaire de Vendôme. Hein. C'est bien ça ? Voilà. La revue Alimentation Générale aux éditions Vite Cocagne, le blog Ces gens-là sur le site de Libération. Il a aussi participé à l'album Le pouvoir de la satire. C'était publié en 2018 et ça raconte 2 siècles de presse satirique de la Révolution à Charlie. Voilà, il est là au premier rang. Je sais pas si c'est une très bonne idée de lui avoir confié une tablette avec, ou c'est plutôt la sienne. Mais on va voir comment il va retranscrire avec son humour cette émission sur Rabelais. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ses dessins ainsi que tous les contenus de notre émission, nos podcasts, nos recettes, nos meilleures adresses sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Gargantua, qui se sentait quelque peu l'estomac creux, demanda si l'on pourrait trouver des laitues pour faire une salade, apprenant qu'il y en avait qui étaient parmi les plus belles et les plus grandes du pays, car elles étaient grandes comme des pruniers ou des noyers. Il voulut y aller lui-même et ramassa à la main ce que bon lui sembla. En même temps, il ramassa les 6 pèlerins qui avaient une si grande peur qu'ils n'osaient parler ni tousser. Gargantua les mit avec ses laitues dans un des plats de la maison, grand comme la tonne de Citeaux, et commença à les manger avec huile, vinaigre et sel pour se rafraîchir avant de souper.
Vous aurez certainement reconnu l'ami Laurent Delmas, le monsieur cinéma de France Inter, en train de lire un extrait du chapitre 38 de Gargantua, un extrait qui raconte, je cite, « comment Gargantua mangea 6 pèlerins en salade ». Alors chacun d'entre vous dans le public a certainement étudié Gargantua à l'école. Rabelais est d'ailleurs, je crois, je parle sous le contrôle de notre professeur, au programme du bac de français.
Cette année, exactement.
Cette année. Et pour ceux qui auraient étudié Rabelais il y a un peu trop longtemps, je vise personne, est-ce que, Stéphane Saulier, vous pourriez nous resituer cette œuvre majeure du XVIe siècle et son auteur ?
Alors, c'est une œuvre, effectivement, qui a illuminé le XVIe siècle. On est sous le règne de François Ier, roi qui a marqué l'ouverture au savoir et à la culture. Cette grande œuvre rabelaisienne, en fait, elle est à la jonction entre l'esprit médiéval et l'esprit de la Renaissance.
Ah, c'est ça. On est vraiment comme ça. C'est le trait d'union entre l'époque médiévale et
complètement,
la Renaissance.
Gargantua est vraiment à la croisée des chemins. Il exprime même de l'œuvre... s'inscrit dans cette tradition médiévale des géants qui étaient déjà des personnages de la littérature médiévale. Et il parodie bien sûr les biographies des grands seigneurs du Moyen-Âge, tout en ajoutant un esprit Renaissance, dont on va parler peut-être un peu plus tard. Cette œuvre, en fait, elle a été écrite sur une vingtaine d'années. Donc elle a pris toute la dernière partie de la carrière de Rabelais, pardon, qui était moine et médecin. Donc il avait fort à faire.
Il y a aussi Pantagruel qui a en fait précédé Gargantua.
Oui, en fait, dans les œuvres, le premier livre, c'est Pantagruel, le fils de Gargantua. Puis ensuite, second livre, ce sera Gargantua, donc le père. Mm-hmm. Et troisième, quatrième et cinquième livre, on reprend les aventures de Pantagruel à la conquête de la dive bouteille. On en parlera.
Ah, la dive bouteille, car on a affaire là encore à une expression rabelaisienne. Alors revenons en particulier sur ce passage où Gargantua veut s'attaquer justement à six pèlerins en salade. C'est tout à fait surprenant. Est-ce à dire que Gargantua était anthropophage, cannibale ?
Allez, je vous rassure. En fait, les pèlerins parviennent à s'échapper de la bouche du géant Gargantua, entre les dents, etc. Et donc, finalement, il n'y a pas de cannibalisme. Il y a juste un désir de Gargantua de s'ouvrir l'appétit pour ensuite avaler plusieurs choses et donc manger de la salade.
Car, effectivement, ça finit par se rafraîchir avant de souper. Le statut donc de la salade, c'était finalement une mise en appétit.
Exactement, en fait, on a bien une indication ici des mœurs de l'époque et sans doute une influence italienne sur les habitudes de nourriture de l'aristocratie de l'époque. Le mot salade lui-même nous vient directement de l'italien par l'entremise de la Lombardie, puisque si l'italien aujourd'hui dit insalata, le lombard dit salata. Le français s'est inspiré du lombard et donc Rabelais nous témoigne de ce passage des habitudes italiennes en France.
Et le principe de la salade qui existe donc déjà à l'époque de Rabelais, ça consiste bien comme aujourd'hui à mélanger des herbes potagères crues et de les assaisonner.
Au sel, notamment vinaigre et sel, et salade à la même racine que sel.
Salata, sel. Ah d'accord. Donc la salade vient bel et bien du mot sel. Voilà qui est tout à fait passionnant.
Non,
soleil. Et sachez que si on veut retrouver, je ne sais pas si vous avez en tête cette fameuse gravure qui raconte la scène justement de Gargantua en train de dévorer les pèlerins s'échappant de sa bouche et de manger cette espèce de salade aux pèlerins, y a une gravure qu'on trouve beaucoup dans les manuels scolaires de Gustave Doré et qui date de 1873. Je me tourne vers Marie Gricourt qui a joué le jeu comme ça, de piocher dans le répertoire rabelaisien et de nous créer des recettes. Je ne sais pas si Rabelais s'y retrouverait totalement dans la recette que vous avez préparée, mais il est question de laitue.
Exactement, on s'est amusé un petit peu à regarder du coup ce que mangeait Rabelais donc à l'époque. Donc là on est parti dans l'esprit de cette salade, justement, salade d'herbes, fleurs, donc vous allez avoir quelque chose de très floral. Donc on est parti sur la salade, mais version coulis. Et bien sûr, pour amener un peu de côté région aussi, ce chèvre. Donc chèvre qui nous vient de la ferme des Ranches des Roves. Donc on est encore sur une vieille variété, une vieille race de chèvre. Donc coulis de salade, crémeux de chèvre frais et quelques pickles de légumes pour rappeler toujours cette salade, voilà, de légumes. d'herbes, de fleurs.
On imagine un coulis de salade crue ou la salade a été cuite ?
La salade a été cuite.
Elle a été cuite, mais par contre, elle affiche un vert chlorophylle absolument incroyable. Comment on s'y prend ?
Eh bien, le secret, c'est une eau bien salée et surtout de bien glacer après cuisson pour garder justement cette chlorophylle.
C'est ça, ça veut dire que le froid du glaçon après la cuisson va fixer la chlorophylle de la salade ?
Exactement.
Et là, cette composition est assez abstraite. Sphérique, pourrait-on dire. C'était le fromage de chèvre en forme de boule extrêmement régulière sur sa petite... je vais pas dire flaque
de
coulis, mais en tout cas sur ce petit coulis de salade qui est très brillant. Comment on s'y prend pour faire cette sphère frais ?
Cette sphère, c'est juste en fait du chèvre frais qui va être cuit au bain-marie avec un petit peu de crème. Mm-hmm. On attend que ça refroidisse un petit peu. On lui ajoute donc de la crème montée. On attend une prise au froid et ensuite on peut mouler cette sphère.
Et il y a des assiettes qui circulent dans le public. Vous pouvez goûter cette création. Qu'est-ce que vous en pensez, Elvira ? Moi, j'ai pas encore pu goûter.
C'est délicat, c'est vert. Il y a une légère acidité. C'est très très frais. C'est un délice.
Une variété de laitue en particulier ?
Alors là, on a utilisé de la laitue percheronne. Donc pareil, une
rare. De la laitue ?
Percheronne.
Qui a entendu parler de la laitue percheronne dans notre public ? Ah, quand même, il y a quelques mains qui s'élèvent. Bravo.
On est à Blois, voilà, une variété très rustique qui pousse dans le jardin du chef Christophe Hay, donc à Montlivaud.
Donc alors pour le coup, on est entre Blois et Amboise, hein, on n'est vraiment pas entre Blois et Chambord.
Chambord.
Pardon, on n'est pas très loin effectivement d'ici. Et elle ressemble à quoi cette laitue percheronne ?
Alors c'est une grosse laitue, vous avez juste sur les bouts des feuilles ce côté un petit peu marron. Voilà, si on la reconnaît comme ça.
Génial. Stéphane Solier, on ne sait pas si Rabelais avait des atomes crochus avec la laitue percheronne, mais il y avait une laitue qui était visiblement chère à son cœur.
Chère à son cœur, la laitue romaine. En fait, la laitue a été consommée dans l'Antiquité, en Grèce notamment, importée de Mésopotamie sans doute par Alexandre le Grand. Et ensuite, elle a été adoptée en Italie. En fait, pour qu'elle arrive en France, il faut attendre l'arrivée. Alors, on a deux hypothèses. Soit les papes qui s'installent en Avignon et qui... Avignon étant une terre papale, désigne cette laitue comme laitue romaine. Soit, et là ça nous intéresse un peu plus, ce serait directement Rabelais qui serait le parrain et l'importateur de la laitue romaine en France. On a un témoignage, il a écrit des lettres d'Italie qui témoignent du fait qu'il envoyait des graines à un évêque, l'évêque de Maillezais, mm-hmm. et il lui dit qu'il est très content de lui envoyer des graines, même si elles sont en petite quantité.
Donc Rabelais, maraîcher.
Et il la croquait, quoi, toujours avec du sel et un peu de vinaigre.
Oui.
Toujours la même chose.
Voilà, c'est ça qui est étonnant. Ah oui. On est quand même quelques siècles en arrière. Ils avaient des habitudes qu'on trouve finalement aujourd'hui assez modernes. Stéphane Solier, penchons-nous un peu justement sur le penchant de Rabelais pour la nourriture. Dans l'entame sonore de cette émission, on entend l'historien Jean Vito qui dit « François Rabelais n'a pas inventé le mot gastronomie, mais il en a inventé le concept ». Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah, totalement. C'est vrai que on retrouve un épisode dans le quart livre, donc le quatrième, et il fait rencontrer Pantagruel à la peuplade des gastrolâtres.
Ah.
C'est un néologisme, c'est lui qui l'invente, gaster en grec qui veut dire ventre, et latreia qui veut dire l'adoration. Et donc c'est un peuple, une peuplade qui est en adoration pour le ventre, pour les plaisirs de la chair. Et ce mot de gastrolatrie va être supplanté par gastronomie, mais Balzac va l'utiliser bien après la gastronomie, et on le retrouve dans beaucoup d'œuvres de Balzac. Donc il y a comme ça une appétence, en tout cas la naissance d'un concept de discours normé de la nourriture qui naît au XVIe siècle, et pas seulement en Rabelais, mais même Montaigne, un peu plus tard dans les essais, parle lui de science de la gueule. Alors les deux auteurs les traitent de façon un petit peu méprisante, un petit peu méfiante, parce que ils considèrent que les auteurs qui se lancent dans des discours un peu trop normés prétendent avoir une hauteur de vue à la manière des scientifiques, mais il n'empêche que les mots liés à la science de la gastronomie entrent dans la langue française par l'entremise de ces auteurs.
C'est ça, donc il y a quand même ce rapport très français finalement à la chose comestible et ce rapport, comme vous le dites, normé, scientifique. Il y a la prétention de s'intéresser scientifiquement à l'art de bien manger et ça c'est quand même assez français.
Tout à fait, et vraiment même dans l'esprit de l'humanisme, hein, on est en pleine Renaissance, et le discours de la science de la gueule fait partie des savoirs à normer, à classer.
C'est ça, et rappelons aussi évidemment, mais je pense que pas mal de nos auditeurs ont ça en tête, que Rabelais a laissé pas mal de traces dans la langue française, notamment par ses adjectifs, rabelaisien, gargantuesque, pantagruélique. Tout ça veut dire un peu la même chose. Très souvent dans la culture populaire, on a un peu tendance à confondre Rabelais avec les héros qu'il a enfantés. Est-ce que ça veut dire que Rabelais, dans sa vie d'homme, avait ce rapport aussi excessif, pantagruélique ou gargantuesque justement à la nourriture ?
Alors c'est étrange, mais nous n'avons pas de portrait de l'époque de Rabelais. Les seuls portraits que nous ayons datent du début du XVIIe et plus tard. J'ai cherché un petit peu dans les textes de Rabelais s'il y avait des traces d'une corpulence digne d'un gourmand gargantuesque. Et en fait, peu de choses apparaissent, si ce n'est son nez. Alors vous pourriez dire, quel est le rapport entre le nez et la gourmandise ?
Moi, j'ai pensé qu'il allait nous parler de ventre ou d'estomac, mais alors le nez ?
Alors, ben le nez, en fait, il explique lui-même dans Gargantua, c'est frère Jean des Entomeurs qui est doté d'un nez, il dit, bien avantagé en nez. Et il explique, frère Jean des Entomeurs explique que si son nez est bien avantagé, c'est parce qu'il a tété du lait de sa nourrice et que les nénés de sa nourrice étaient, les tétins étaient mollets et que ça permettait à son nez de grandir.
D'accord.
Et
on est en plein pipi caca avec Rabelais.
On est dans le scatologique, c'est vrai. Mais témoignage qui est intéressant, en fait, Ronsard, pour ça que je disais Ronsard tout à l'heure, Ronsard a écrit l'épitaphe de Rabelais à sa mort. Un an après sa mort, il écrit une strophe très célèbre. « La fosse de sa grande gueule eût plus bu de vin toute seule, l'épuisant du nez en deux coups, qu'un porc ne hume de lait doux. » Et là, on voit la puissance aspiratoire du nez de Rabelais proclamée et chantée par Ronsard.
Allez, on termine cette première partie de l'émission avec un morceau de bravoure. Soyons clairs, il y a Pantagruel, Gargantua dans l'œuvre énorme de Rabelais, mais il y a également cet exploit littéraire.
Alors c'est un exploit. Il faut dire quand même que malgré cette abondance et ce goût du gras, Rabelais était médecin et donc il avait aussi des soucis diététiques que l'on retrouve quand même dans son texte. Mais dans le quart livre, justement dans l'épisode des gastrolâtres, Pantagruel parvient à l'île de Messire Gaster et il assiste à une cérémonie étrange qui est une cérémonie d'adoration du dieu Mandus, qui veut dire le dieu baffreur. Et ça donne lieu à une liste qui a, selon plusieurs historiens de la littérature, qui détient le record de longueur dans toute la littérature mondiale des mets et des plats de cuisine.
La plus longue liste de plats existante dans la littérature, c'est ça que vous nous dites ?
Exactement. Je n'ai pas compté les mots, mais elle fait une trentaine
de
pages.
On ne va pas faire la lecture entière.
Non, je cherche ma page. Hop, on y va. Carbonade de 6 sortes, coscoton, fraissure, fricassé 9 espèces, cabirotade, esclanche à l'ayade, coustelette de porc à l'oignonade. Je saute des pages, hein. Corbeau de chapon, formège, pêche de corbeille, artichaut, gâteau feuilleté, caillebotte, neige de crème, mirobal en confit, gelé, hippocras rouge et vermeil, poupelin, macaron, tarte 20 sortes, crème, confiture sèche et liquide, 60 et 18 espèces, dragée sans couleur, lonché, mestier au sucre fin.
Waouh!
C'est poétique,
absolument,
hein?
Absolument incroyable.
La liste des courses pour aller au marché.
Et on sent aussi chez Rabelais, effectivement, ce plaisir de déguster les mots, de les goûter.
Oui.
C'est-à-dire qu'il considère presque les mots comme des ingrédients dont il fait une cuisine.
Et en fait, on a ici vraiment un poète de la langue. Je vous ai lu quelques extraits justement pour vous montrer qu'il joue aussi sur les sonorités. On a vu au tout début, hein, fraissure, fricassée, des belles allitérations qui donnent juste envie de se pourlécher les babines. On a des jeux sur les sonorités, les rimes, esclanche à l'ayade, coustelette de porc à l'oignonade. On est en pleine Provence avec ces termes-là et il joue sur ces sonorités gourmandes.
La liste des plats de Rabelais dans le quart livre, c'est la suite de Gargantua.
Et en fait, ce sont toutes les aventures de Pantagruel.
C'est ça. Eh bien, écoutez, parfait. On évoquait Rabelais comme trait d'union entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Je vous propose une petite mise en ambiance musicale.
Salve, salve, parve. salué, 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 parué,
salué, salué, salué.
Sine luce, angor minus oblectate,
nunc hic sumus me sentio, aeger stumus oblectate,
nunc hic sumus barbarus albinus culexet,
mea divino
ei.
Salve, salve, parve.
Salve, salve, salve.
Sine luce, angor minus oblectate,
nunc hic sumus me sentio,
aeger stumus oblectate,
nunc hic sumus barbarus albinus culexet.
Qui reconnaît ce titre ? C'est une reprise ? Vous l'avez ?
Nirvana.
Nirvana, bravo ! Le titre, vous l'avez reconnu aussi, Elvira ? Bah,
une de leurs chansons les plus connues, Smells Like Teen Spirit, mais version bard.
Bah, c'est ça, version Moyen-Âge. Et c'est une grande tendance, figurez-vous, qui s'appelle le bardcore, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui consiste à reprendre des titres, des tubes planétaires, à la sauce médiévale et en latin classique. Monsieur est latiniste agrégé de lettres. Vous avez compris les paroles ou pas ?
J'ai pas écouté.
Ah oui, d'accord.
Je suis désolé.
Je crois qu'il y a une version de Tata Yo-Yo qui est en cours de traduction.
Et pour prolonger dans le verre cette ambiance médiévale, il y a un mot qu'on a entendu dans la liste de cet inventaire de Rabelais dans le quart livre, c'est l'hypocrase.
Exactement, c'est l'hypocrase. Alors j'en ai préparé un que vous goûtez actuellement. Donc l'hypocrase, c'est une ancienne boisson à base de vin, sucrée au miel avec des épices, toutes sortes d'épices, cannelle, anis étoilé, cardamome, etc. Et c'est un vin dont le nom vient du médecin Hippocrate, du médecin grec. Mais les premières références que l'on a trouvées, c'est 14e siècle.
Et c'est l'hypocrase eh ben, qu'on est en train de goûter. Moi, je trouve que c'est un bon goût de vin chaud.
Complètement.
Sauf que c'est froid. Et pour ne pas, froisser, évidemment, celui qui a repris la chanson de Nirvana, eh bien, je vous précise que c'est le YouTuber The Miracle Liner. Voilà. Et c'est un choix de notre programmateur musical Djoubaka. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec à la technique Fabien Gosset, Geoffrey Marianne, Mathieu Leroy, Alain Pied et Franck Malabry. Notre irremplaçable Nadia Chougui est aussi du voyage au rendez-vous de l'histoire de Blois.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Venons-en au cas Marie Gricourt. Vous allez bien ?
Très bien, toujours.
Précisons quand même que vous êtes accompagné par un jeune membre de votre équipe, de votre brigade.
Exactement, le sous-chef de la table d'à côté, donc Théo Blanchard.
Vous êtes effectivement au fourneau. Ben on peut l'applaudir, bien sûr. Théo Blanchard, vous êtes au fourneau Marie Gricourt de la table d'à côté. Alors, on est à Ardon, hein, on l'a dit, au sud d'Orléans. Et c'est un des restaurants du chef Christophe Hay, qui a 2 étoiles à Montlivaud, qui déménage bientôt au cœur de la ville de Blois. Ça va être un événement 2022. Moi, j'attends ça avec impatience. J'aime beaucoup la cuisine de ce chef. Mais il a également une table étoilée à Orléans. Ça fait combien de temps que vous y êtes ?
Alors moi, ça va faire 1 an et demi que je suis là-bas. Et j'ai travaillé avant, donc, à Montlivaud avec le chef.
Est-ce qu'on peut se permettre de vous demander votre âge ?
Bien sûr. Alors, je viens d'avoir 28 ans.
Bravo ! Je vous dis ça parce qu'à l'heure où l'on dit que les femmes sont sous-représentées dans le milieu de la gastronomie, et c'est malheureusement une réalité, eh ben, il y a des femmes de votre trempe avec des CV en béton armé. Et je pèse mes mots puisque vous avez travaillé au fourneau de l'Élysée.
Là, j'ai été la première femme à intégrer les cuisines de l'Élysée il y a 3 ans maintenant.
Comment ça s'est fait ?
Ça s'est fait sur une rencontre, voilà, le chef Guillaume Gomez. On s'est rencontrés sur un concours de cuisine.
D'ailleurs, j'ai remporté ce concours et à la fin, il m'a dit « Le jour où j'embaucherai une nouvelle personne, ça sera toi. » Et un jour, je me suis réveillée, j'ai eu un coup de fil et la semaine d'après, j'étais à l'Élysée.
Alors attendez, c'est quelle période vous avez servi? Quel président de la République?
Le tout début du quinquennat de M. Macron.
Combien de temps vous y êtes resté?
2 ans.
C'est fou qu'il n'y en ait eu aucune avant votre arrivée.
On est d'accord.
Oui, ça veut dire qu'avant vous, il n'y avait jamais eu de femme dans la brigade de cuisine du palais de l'Élysée.
Exactement.
Alors, même pas une commis, même pas...
Stagiaire, ah, oui. Stagiaire. Mais de personnes embauchées, non.
C'est fou.
Voilà. Mais c'était un petit peu l'objectif, je pense, du quinquennat, d'avoir une mixité dans tous les services à l'Élysée.
Et vous venez sinon en voisine, puisque vous êtes née dans cette charmante ville de...
Pithiviers.
Ça, pour les gourmets Pithiviers, ça rappelle quand même souvent de bons souvenirs. Et vous avez travaillé aussi au Précathlon à Paris, au Bristol d'Éric Fréchon. Vous avez une étoile actuellement, autant dire que vous avez encore une fois un CV très très complet. Et vous avez eu, c'est pas pour ça que vous êtes dans cette émission, mais il se trouve que vous avez eu le prix Rabelais des jeunes talents en 2014. Ce qui justifie que
c'est
vous...
C'est le destin.
C'est le destin, et ce qui justifie que vous vous mêliez du répertoire rabelaisien avec une nouvelle recette que vous avez imaginée.
Alors là, on part un petit peu dans le 45. J'adore Blois. Hein,
Blois,
voilà. Là, on part du côté de Jargeau. Donc, on a travaillé ici l'andouille de Jargeau, qui nous vient d'une petite boucherie qui s'appelle A.S.C. Manceau. Donc, on a travaillé l'andouille avec la moutarde d'Orléans, le vinaigre d'Orléans et le confit de moutarde d'Orléans de la maison Martin Pourret.
Et on peut la citer parce que Martin Pourret, voilà, une très belle entreprise française qui continue, malgré ses volumes importants, à faire de la vraie belle qualité artisanale s'agissant du vinaigre méthode orléanaise.
Exactement.
Mais également de la moutarde.
Et de la graine de moutarde cultivée en France,
oui.
Ce qui est suffisamment rare pour être noté.
À Pithiviers.
C'est-à-dire de la moutarde qui vient de Pithiviers.
La graine de moutarde vient de Pithiviers.
Bravo, ça c'est récent alors, non?
Alors ça, eux, sur leur moutarde, ils sont à 100% du centre-Val de Loire. Toutes les graines viennent du centre-Val de Loire. Et donc là, effectivement, il y a un producteur qui se situe à Pithiviers.
Comment vous pourriez nous décrire cette recette? Vous avez des tranches d'andouille?
Tranches d'andouille et pommes de terre. On a rajouté un confit de moutarde, donc simplement de la moutarde qui va être confit très longtemps. Quelque chose de très sucré, très doux. Mm-hmm. On a également travaillé la pousse de moutarde du jardin et quelques graines de moutarde en pickles.
Incroyable, et on sent quand même que cette tranche assez épaisse, elle fait un petit centimètre d'épaisseur, est bien bien marquée, colorée, caramélisée sur les deux surfaces.
C'est ça, cette réaction qu'on aime beaucoup, surtout sur l'andouille. Vous allez voir, c'est une andouille qui est très riche en viande, qui est très peu grasse.
Mm-hmm.
Voilà, on en mange beaucoup.
Pour autant, on n'a pas de registre animal qui soit très marqué, c'est assez fondu. Et la promesse de la moutarde, elle est tenue. C'est juste un petit soulignement.
Vous avez le nez qui chatouille, Dominique?
Non, je suis dans les starting blocks, j'ai du vin pas très loin.
Oui, oui,
et je résiste.
C'est bien à toi, à vous, de prendre la parole. Mais juste avant, on voudrait quand même préciser que le choix de l'andouille... Et le choix de la moutarde n'est pas totalement hasardeux.
Non, complètement, c'est dans l'esprit rabelaisien. D'abord, les andouilles, on les retrouve dans 2 célèbres chapitres du Carlivre. Et vous avez comme ça une guerre qui est menée par les andouilles qui sont tout à fait personnifiées dans l'œuvre. Et une embuscade étendue à Pantagruel par des andouilles géantes, farfelues. Un gros bataillon d'andouilles puissantes et gigantesques. Qui sont flanqués d'un grand nombre de boudins, de pâtés en croûte massif et de saucissons à cheval, tous de belle taille. Qu'arrive-t-il? Évidemment, commence le véritable combat pêle-mêle. Racle l'andouille, raclez les andouilles. Taille boudin, taillez les boudins. Pantagruel rompait les andouilles aux genoux. Qu'arriva-t-il? Le camp était couvert d'andouilles mortes ou blessées.
Ah oui.
Et pour les andouilles à la moutarde, on a dans la fameuse liste que je vous ai lue l'expression « andouille caparaçonnée de moutarde fine ». Donc on a bien ici vraiment l'esprit de ces mélanges rabelaisiens.
Si on avait mis cette petite assiette sous le nez de François Rabelais, qu'est-ce qu'il aurait...
Là, il se serait sûrement dit que c'est la meilleure andouille de France, je pense.
Oh là là, c'est bon. Ça croustille à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est comme un lit bien, bien molletonné, c'est très tendre.
Et ça, c'est rassurant, je trouve. C'est des goûts qui nous rassurent un petit peu et puis qui nous font penser à des plats qu'on mangeait aussi plus jeune.
Et avec le petit picotement de la moutarde, mais qui est quand même assez douce, hein. C'est maîtrisé, ça envoie pas des 400 volts, ça va.
C'est une moutarde très douce, la moutarde d'Orléans, vraiment.
L'andouille circule dans les travées dont on va déguster. Est-ce que quelqu'un a goûté pour nous en dire un petit mot? Madame, vous vous appelez?
Théa,
bonjour.
Bonjour, c'était délicieux et surtout on a du mal à penser que c'est de l'andouille, c'est plus riche, enfin, ça a l'air moins rustre que l'andouille qu'on peut connaître chez nos grands-parents, plus grasse, avec des... Là, c'est délicatement enroulé, ça fond dans la bouche, c'est vraiment...
On l'embauche, non?
Ouais.
Ah non, c'est délicieux.
Merci pour votre réaction. On va essayer de tenter un accord avec cette andouille. Tout en sachant qu'il y a, on y vient, une expression typiquement rablaisienne qui nous fait la transition vers Dominique Hutin, c'est la dive bouteille.
Oui, la dive bouteille, c'est une expression qui est passée dans la langue courante hein, pour parler de ce breuvage des dieux qu'on appelle le vin. Mais c'est effectivement l'objectif final des pérégrinations de Pantagruel et de ses amis, Panurge et compagnie. C'est l'oracle de la dive bouteille. Et en fait, la présence du vin dans l'œuvre est majeure. Et on ne comprend qu'à la fin du cinquième livre quel est le sens de cette soif de vin qui est en fait une soif de connaissance. Et là encore, nous sommes dans l'esprit vraiment humaniste. La conclusion, en quelque sorte, de cette quête de la dive bouteille, c'est « Si vous avez remarqué ce qui est écrit en lettres ioniques sur la porte du temple, vous avez pu comprendre que dans le vin est cachée la vérité. La dive bouteille vous y envoie. Soyez vous-même interprète de votre entreprise. »
Oui.
Il est à ce point en avance sur son temps que la conceptualisation, la structuration du langage du vin, ça n'est que la fin du XVIIIe siècle, contrairement aux fables qu'on entend beaucoup tourner ces temps-ci. On nous parle du XIXe. Non, c'est pas tout à fait vrai. Mais il reste pour autant très en avance par rapport à tout ça.
Dominique Hutin a la parole, et bien il la garde.
On va déguster. Sur France Inter.
Dominique Hutin, très heureux d'être à Blois.
Oui, mais enfin, moi je suis très docile surtout. Je me suis collé à la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire le travail. Je voudrais donc évoquer la vie et la mort du vin de labeur.
Alors rappelons que le travail n'est pas la thématique dont on va déguster, vous l'aurez compris, mais c'est la thématique des rendez-vous de l'histoire, voilà. 24e édition.
Exactement. Et ce vin de labeur, il a longtemps été incarné par le vin de table. Le vin de table, vous allez le voir, c'est aussi un petit peu l'histoire du vin de France, de l'histoire de France tout court, pardon. Alors cette histoire, forcément, comme l'histoire de France, ça a l'air un petit peu tourmentée. Alors je vous rassure, ça finit bien. Voilà, un petit peu de patience. Le premier grand temps, c'est un âge d'or. Le vin a longtemps profité d'un statut de boisson médicament. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on dirait alicament, d'ailleurs. Et cette théorie, elle trouve des racines dans une prose médicale qui est très ancienne et qui faisait considérer la digestion comme étant liée à la cuisson des aliments dans l'estomac. Et les boissons qui étaient considérées comme froides, par exemple comme l'eau, ne convenaient pas. Alors que le vin, lui, était considéré comme chaud, était garant donc d'une bonne digestion. Ça a été une manière pour le vin de capitaliser pendant très très longtemps. Et puis, alors, je vais vous faire une première ordonnance. Je vous ai mis des verres, tiens, devant vous.
Avec modération. Hein.
Avec modération. Alors, ça n'est pas du vin de table. Je vais m'en expliquer un peu dans la chronique. Mais vous allez voir, c'est un héritier lointain. Vous avez deux types de verres. Alors, j'aurais pu amener les vins de la famille Puzla, qui est très connue dans le 41. Ils sont dans ma dégustation encore et toujours au rendez-vous. Je vous ai amené un vin d'Hermine de Clermont-Tonnerre. C'est une toute jeune vigneronne qu'il faut vraiment suivre, qui a sonné le réveil d'un domaine qui était endormi, voilà. Donc vous avez un gamay vraiment délié avec une couleur assez peu soutenue. Et puis vous avez aussi Marie Thibault qui, elle, vient avec son gros lot, qui est un autre cépage. Et tous ces vins-là, vous allez retrouver parmi 60 autres congénères sur notre site internet.
Ah, dégustation sur la page d'On va déguster,
voilà,
franceinter.fr.
Exactement. Beaucoup de talents nouveaux, ça c'est intéressant. Alors le travail qu'on peut considérer comme une activité, mais aussi comme un lieu, ce travail, il a été longtemps le siège d'une consommation qui a été encouragée avec des recommandations médicales. Alors évidemment différentes selon que la difficulté de votre métier, différentes aussi selon que vous soyez un homme, une femme ou un enfant, il faut le dire. Avec l'idée suivante, c'est que le vin rouge est un reconstituant. Et la posologie, ça pouvait atteindre 2 à 3 bouteilles par jour. On trouve même des traces de 8 litres par jour.
Alors précisons qu'à l'époque, le vin avait un degré d'alcool un peu plus bas.
Voilà, on pouvait tutoyer les 6 degrés, les 8
degrés. Rétrospectivement.
8 litres par jour, c'était en Vendée. On embrasse bien sûr nos amis vendéens qui nous écoutent aujourd'hui.
Il y en a un dans la salle. Bonjour monsieur.
On va rester amis jusqu'à la fin. Alors... Le vin était à ce point intimement lié au travail qu'une partie du salaire pouvait être payée en bouteille. Vous voyez, on est loin de l'époque contemporaine. Alors cet âge d'or, évidemment, Blois en a beaucoup profité, grâce notamment aux voies navigables, qui vont être des voies de commerce vers Paris. Et par exemple, en 1800, on estime que les vins de Blois et d'Orléans, c'est presque 20% de ce qui se boit à la capitale. Alors là, on est quand même tenté de remplacer l'expression « bois sans soif » par « Blois sans soif ». Autre vecteur...
Il a des fans dans la salle, amateurs de ces jeux de mots.
Alors après, ça se corse un peu malheureusement. Oula. Autre vecteur de consommation, la guerre. Rappelez-vous Napoléon, pas de vin,
pas de soldats. Et en 14-18, on va même innover puisque c'est l'État qui va servir gratuitement jusqu'à 75 centilitres par jour à chaque soldat. Alors ça fait une bouteille. Alors évidemment c'est une bouteille, mais c'est surtout une béquille psychologique pour supporter l'enfer des tranchées avant d'aller se faire transformer en confetti. On rappellera à toutes fins utiles que le maréchal Foch est aussi vigneron. Vous voyez le stratège ? Alors, le vin paysan, le vin ouvrier, le vin du soldat, le vin du peuple, en somme, ce vin du quotidien, évidemment, il a la langue bien pendue. S'agissant du travail, il va développer un argot des métiers pour évoquer l'ivresse. Par exemple, l'ouvrier d'imprimerie, il s'ancre lorsqu'il est ivre. Le porteur, il se charge la brouette. Et plus généralement, on va trouver beaucoup d'autres apports d'extraction populaire. Par exemple, ramasser une poivrade, se peinturer le tarbouif, sarsouiller la terrine, se graisser le toboggan, se lubrifier, le cervelet, s'inonder le corridor ou encore se goudronner le vestibule. Vient le deuxième temps, celui du déclin pour ce vin populaire. Et là, c'est l'uniformisation. Parce que pendant les années 30, on progresse énormément à la vigne, donc qualitativement. Mais en même temps, c'est déposé comme truc, non ? Oui, bon, en même temps, l'industrie pinardière, dans les années 30, va s'employer à massacrer tout ça et produire des vins qui vont être très neutres et très plats. Autre chose qui pointe, c'est la surproduction qui nous inquiète. Nous sommes là dans une France viticole et coloniale avec les vins de l'Algérie. Et le tout est couplé dès les années 50 à une baisse de consommation des Français. Enfin, le bouleversement des repères sociaux avec les Trente Glorieuses, l'augmentation du niveau de vie, l'avènement d'un vin de qualité finalement, de convivialité au détriment du vin aliment, ce vin de travail. Un vin de travail qui est à ce point générique qu'il n'a pas le droit de revendiquer sur son étiquette ni les cépages, ni le millésime, ni la région de production. Et qui n'a pas de cahier des charges pour la production. Donc ajoutons simplement que la disparition des exploitations agricoles, le tissu industriel qui lui aussi se délite à cette époque-là, et puis en même temps l'émergence d'un secteur tertiaire et de campagnes de lutte anti-alcoolique, tout ça va acter une espèce de désamour pour le vin de labeur. Et finalement, ben oui, les campagnes d'arrachage vont poindre et on ne compte plus en 2009 que 5% de vignes qui sont fléchées vers la production de vin de table. Donc, nous sommes dimanche, la messe est dite, il n'est plus au goût de l'époque. Ce vin arrive enfin 2009, c'est le dernier volet, qui va entériner administrativement la disparition du vin de table et construit un nouveau modèle qui va s'appeler le vin de France. Voilà. Il est toujours élaboré sans cahier des charges, contrairement aux signes de qualité AOC, AOP, vous les connaissez, hein, les Touraines en bois, les Touraines Mélan, les Chevernis, les Touraines qui entourent bois, en tout cas. Et ce vin de France va se raconter, lui, plus librement en communiquant avec l'étiquette, cépage, millésime, etc. Et cette nouvelle catégorie, finalement, elle est mieux armée pour la castagne à l'export. Vous imaginez un peu la force d'évocation aux États-Unis, au Japon, vin de France. Et ça, ça a été extrêmement porteur. Et accessoirement, il va véhiculer une nouvelle image sociale et devenir un nouvel espace de créativité aussi et de valorisation, du coup, pour ceux des vignerons qui sont foncièrement indépendants, il faut le dire, sont quand même des gens qui sont souvent en bio, souvent en vin naturel. Donc le vin de table est mort. Bah, très bien, vive le vin de France.
Voilà, voilà, le vin de France. Merci beaucoup, Dominique. Dans un instant, dernière partie de cette émission, on va passer au sucré avec notre chef Marie Gricourt, mais également avec Stéphane Solier, notre spécialiste de Rabelais, qui va nous raconter comment aussi le sucré a finalement s'est infiltré dans l'œuvre rabelaisienne. Nous sommes au cœur des rendez-vous de l'histoire de Blois, et Bernard Lavilliers est au cœur du monde.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Est-ce que Blois est toujours là ? Nous sommes à l'auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire à l'occasion de la 24e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Et François Rabelais est au menu d'On va déguster avec Stéphane Solier, professeur de lettres. Merci beaucoup d'être là. Et Marie Gricourt, chef de la table d'à côté à Orléans, c'est bien ça ?
C'est toujours ça.
Et vous êtes en train de préparer une autre recette qu'on va évoquer dans un instant, puisqu'on vous a promis de passer au sucré. Il y a également un dessert qui est prévu. Mais juste avant, je vous avais dit qu'il y a un drôle de loustique qui est au premier rang de cet auditorium. C'est Terreur Graphique, un dessinateur avec beaucoup, beaucoup de talent. On vous invite à retrouver ses dessins qui ont vraiment été croqués en live pendant cette émission sur franceinter.fr à la page On va déguster. C'est Dominique qui tient la tablette de Terreur Graphique.
Oui, il a le crayon en folie. Il y a plusieurs dessins, j'ai dû faire un choix. Alors, j'en ai gommé un parce qu'il me concerne directement. Donc vous rigolerez sans moi une autre fois. Et là, en tout cas, on voit qu'il a bien écouté l'émission et on voit une alliance de circonstances entre Marie Gricourt et Elvira qui tout à l'heure soulignait l'absence de femmes dans les cuisines de l'Élysée et puis dans le panorama gastronomique peut-être plus en général. Et donc, elle nous rappelle que le choix de la recette de l'andouille tout à l'heure n'était pas tout à fait le fait du hasard. Et on a trois figures qui se trouvent être les trois figures masculines du plateau. C'est-à-dire, nous trois, les garçons.
N'est-ce pas, messieurs? Oui, c'est ça.
Un peu blême. Mais c'est très bien construit graphiquement et vous verrez les autres sur notre site avec l'ensemble des dessins.
Et j'aime beaucoup le trait du garçon. Je suis censé lui ressembler. Oui, c'est un peu ça.
Un peu déconfit pour l'occasion.
Prenez-le bien.
Non, mais il a le trait assez respectueux de la réalité tout en ayant ce bel humour potache qui nous plaît. Eh bien, la recette, on y vient. La voici, intitulée, s'il vous plaît, Marie Gricourt.
Donc foisse rablaisienne au raisin, parce que voilà, c'est un petit peu aussi notre région. Et on a travaillé aussi le verjus, donc ce jus de raisin, voilà, qui est raisin
verjus, vert. Jus vert, hein. Jus c'est bien
vert,
ça. Et racontez-nous la généalogie, l'histoire de cette petite recette. Comment ça s'est télescopé, tous ces éléments dans votre tête?
Alors moi j'ai la chance d'avoir Théo Blanchard qui est tourangeau. Donc voilà, il m'a expliqué un petit peu que là-bas c'était commun de manger de la foisse. Mm-hmm. Donc on s'est intéressé un petit peu à cette recette. Donc c'est une brioche à base de miel, mm-hmm. de noix, de safran, de cannelle, enfin tout ce qu'on a ici. Donc voilà, on s'est permis de rajouter ce raisin. Alors c'est le raisin
ça ressemble à du chasselas.
C'est du chasselas.
Ah. Voilà. Et il vient d'où ?
De Pithiviers du coup, hein, pour le coup. Hein.
Mais c'est dans votre jardin ?
Le jardin de mes parents.
Bah ça a de la valeur alors.
Cueilli juste pour vous.
Et vous très disiez bien. Marie que ça allait très bien avec ce qui nous reste dans nos verres d'Hippocras.
Exactement, ce côté cannelle que j'ai retrouvé, voilà, qui est très présent dans cette foisse aussi.
Mmh. Mmh, elle est moelleuse, elle est bonne. Et là on pourrait retrouver un peu la sensation
Corée, Rabelais, en croquant dans cette fois ce 16e siècle, Stéphane Solier ?
Oui, effectivement, il y a un célèbre passage du Gargantua au chapitre 25 où vous avez une guerre qui va être déclenchée par des foissiers qui refusent de donner leurs foisses aux compagnons de Gargantua. Ça va déclencher une guerre mémorable. Et juste avant cette guerre, il dit « C'est mets célestes que de manger à déjeuner des raisins avec de la foisse fraîche ».
C'est ça.
Donc Marie, vous êtes totalement dans l'esprit de Rabelais. La foisse était un pain, alors pas forcément brioché à l'époque, hein. Panis focaccius, le pain cuit au feu de bois. Qui va donner la fougasse, la foisse, la focaccia en Italie.
Ah oui, d'accord, c'est un rapport avec le feu.
Oui, dans l'esprit du feu, du foyer.
Qui donne cette fabuleuse foisse, elle est délicieuse cette recette, hein, avec les petits raisins frais qui croquent en bouche, très juteux. Cette foisse bien moelleuse avec un petit accent épicé.
Oui, exactement. On a de la chance d'avoir beaucoup de safran dans notre région. Donc là, il vient d'Huisseau-sur-Cosson, donc vraiment juste à côté de Blois. Même pas, Papy TV, je suis désolée. Non, en fait, on a notre jardinier du restaurant, Monsieur Alain Gaillard, voilà, qui est producteur de safran, donc on travaille en direct.
Bravo, et la brioche au safran, en plus, c'est quelque chose de particulier. Hein. Il y a le Bescoin en Savoie, il y a beaucoup de traditions de brioche et de pain aux épices dans toute la France. On va passer de la cuisine roborative et rablaisienne à un répertoire nettement plus frugal. Vous allez comprendre, Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
On quitte le répertoire culinaire et on quitte également la région, Elvira, avec vous.
On fait une pause au milieu de cette abondance et de cette gastrolatrie. On part dans une direction complètement opposée. La direction prise par une femme, l'une des, voire la plus grande artiste américaine du XXe siècle. Née en 1887, morte en 1986, dont on voit le nom et les tableaux partout depuis la rentrée. Savez-vous de qui il s'agit ?
Une petite idée dans le public qui fait l'objet d'une grande exposition, oui. Une rétrospective à Pompidou ?
Absolument.
Ah, ça y est, on a entendu le nom.
Georgia O'Keeffe, peintre archi connue aux États-Unis, méconnue en France jusqu'à maintenant, à l'avant-poste du modernisme puis de l'abstraction. Le Centre Pompidou lui consacre enfin et jusqu'au 6 décembre sa première grande rétrospective française. Quel rapport avec la cuisine ? Ah. Avant tout, un lien très fort à la terre, aux grandes plaines d'une enfance passée dans le ranch familial du Wisconsin, où se sont établis ses grands-parents hongrois et irlandais, et qu'elle quitte le Wisconsin pour suivre ses études à New York, tomber amoureuse du photographe-galeriste Alfred Stieglitz, trouver sa voie artistique avant d'avoir le cœur brisé et de trouver refuge sur la terre aride du Nouveau-Mexique. En bonne pionnière, elle repousse la frontière, retrouve un ranch, le célèbre Ghost Ranch, à Abiquiu, sa maison, son atelier, mais aussi sa cuisine. Georgia O'Keeffe peignait tous les jours et cuisinait tous les jours, avec les légumes et les herbes de son potager qui étaient comme une extension d'elle-même. Un jardin d'abondance qui lui a permis, dès les années 40, d'éviter de traverser la route poussiéreuse qui la conduisait jusqu'au marché de Santa Fe. Elle faisait son compost, elle cultivait toutes sortes de pois, blettes, choux, carottes, navets, betteraves, des rangées qui étaient piquées de fleurs de tournesol pour éloigner les insectes indésirables, du maïs, plusieurs variétés de tomates, toute une série de courges et de piments, et des arbres fruitiers. Comment est-ce qu'on en a la trace ? Grâce à un livre, ce livre, qui est un de mes livres de chevet, qui s'appelle « A Painter's Kitchen », la cuisine d'une peintre, soit un recueil de recettes paru en anglais en 2009, pas traduit, signé Margaret Wood, qui était l'assistante de Georgia O'Keeffe et qui cuisinait pour elle tout ce que l'artiste lui avait enseigné. Des recettes extrêmement simples et pures, on pourrait dire parce qu'en avant sur leur temps.
Presque paysanne, en fait.
Paysanne, frugale, organique, saine. Par exemple, une salade de cresson avec un petit peu d'olivèche et une pointe d'ail, huile d'olive, citron, graines de moutarde et c'est tout. Des œufs durs dont le jaune est mixé avec un peu de yaourt, de moutarde, une pointe de curry et une foule d'herbes, aneth, ciboulette, estragon, un minestrone, une soupe de maïs, des recettes d'inspiration mexicaine, des enchiladas, une soupe d'avocat, un guacamole, très peu de viande, beaucoup de légumes, une purée de pommes de terre au pissenlit, des pancakes de sarrasin, un soda bread, clin d'œil à ses origines irlandaises, un souci de la diététique, de la digestibilité, du caractère anti-inflammatoire des combinaisons d'aliments, rendre sa cuisine complètement holistique, bon, le mot est un peu galvaudé, mais c'est une réalité, et parfaitement, Stéphane, anti-rablaisienne, peut-on dire ?
Totalement.
La main est austère, mais assurée. Aucun plat n'est encombré de choses inutiles. La minéralité originelle du potager se tient bien droite aux côtés de la chaleur des céréales et des légumineuses, de l'acidité tranchante d'un agrume. De manière instinctive, on sent que ce sont de bons plats, écrit Deborah Madison dans la préface de l'ouvrage. Le nom de Deborah Madison ne vous dit sans doute rien. Elle est l'une des plus grandes écrivaines culinaires américaines. Elle a écrit plus de 15 livres géniaux, notamment Vegetarian Cooking for Everyone. Elle vit toujours au Nouveau-Mexique. Alors je me dis que si Georgia O'Keeffe est finalement célébrée comme il se doit en France, peut-être que Deborah Madison pourra avoir au moins un de ses livres traduit en français.
Et oui, parce que le livre qui est votre livre de chevet, vous y avez décoré
chevet,
pas mal de recettes, un de vos livres de chevet.
Oui, parce il m'inspire beaucoup.
Il y
ouais.
en a quand même quelques-uns dans votre bibliothèque.
Un paquet, ouais.
Rappelez-nous les références. Ce livre-là n'est pas traduit en français.
Il n'est pas traduit en français. Il est préfacé par Deborah Madison. Il s'appelle A Painter's Kitchen, donc la cuisine d'une peintre. Et il a été publié en 2009 par les presses du Musée du Nouveau-Mexique.
Et vous allez peut-être à ce micro donner une très bonne idée à un éditeur parisien.
Avec un peu de chance.
C'est déjà arrivé.
Ça a pu arriver,
et
ouais.
ben, y a plus
c'est toujours une bonne nouvelle.
Dont
ouais.
vous avez parlé de la version originale et qui ont été traduits grâce à l'entremise de notre micro, qui ont été traduits en français. En tout cas, celui-ci le mériterait, cette cuisine frugale, paysanne, autarcique en fait. Hein,
autarcique,
et saisonnière,
autosuffisante.
Autosuffisante
ouais.
fait tout à fait envie. Un grand merci. A Painter's Kitchen, donc le répertoire culinaire
de Georgia O'Keeffe.
De Georgia O'Keeffe, dont l'exposition
dure jusqu'au 6 décembre au Centre Pompidou.
C'est ça. Un grand merci Elvira. On finit par... une petite touche, cher Stéphane Saulier, vous nous avez servi ce qui ressemble à une brioche.
Un pain brioché qui a la jolie idée, et je dis idée exprès, de s'appeler le Rabelais. Donc c'est une création d'un boulanger pâtissier parisien, Christophe Vasseur, donc du pain et des idées dans le 10e arrondissement. Quand on passe dans les environs, on a des effluves qui vont jusqu'au Canal Saint-Martin. Et voilà, donc il le fait uniquement le vendredi. Donc voilà, ça a été compliqué, mais je vous en ai apporté deux petits pour que vous puissiez le goûter.
Le goût donc, c'est très soutenu. Hein.
Goût très soutenu, pas beaucoup de sucre.
Pourquoi vous faites la grimace, Dominique Hudin ?
Non, je fais pas la grimace, mais on attend une petite gentillesse. En fait, moi, ça me fait beaucoup penser à ces hydromels très corsés qu'on peut trouver et qui renaissent aujourd'hui, qui sont assez puissants.
Avec des noix, hein.
Miel, safran et noix.
C'est bon. Et c'est du coup une libre interprétation.
Interprétation dans l'esprit de Rabelais, oui.
Comme quoi Rabelais, pardon, je finis. Comme quoi Rabelais est définitivement enraciné dans nos répertoires et dans notre culture populaire. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, Marie Gricourt, d'être venu jusqu'à nous. Rappelez quand même les jours d'ouverture de votre restaurant. C'est à Orléans et c'est une très belle expérience à vivre.
Voilà, c'est le restaurant La Table d'à côté, voilà, qui est ouvert du mardi au samedi.
Est-ce que les recettes que vous avez spécialement conçues pour nous ont des chances de se retrouver un jour à votre carte ?
Quelques éléments, oui, les recettes entières, je ne sais pas, mais quelques éléments, oui, bien sûr.
Et on remercie évidemment celui qui vous a accompagné tout au long de cette émission. Théo Blanchard, merci beaucoup. Merci Stéphane Saulier, vous avez un livre important à citer.
Oui, pour ceux qui aiment Rabelais, qui ont envie de plonger dans le corps grotesque et l'univers des banquets de Rabelais, vous avez le classiquissime Michael Bakhtin. L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et à la Renaissance.
Un grand merci. Merci Dominique Hutin, vous aviez une revue à citer.
Une petite actu, Le Vin Ligérien, qui est un magazine entièrement tourné vers les vins de Loire et qui, grand hasard, ce mois-ci, le dernier numéro, convoque Loïc Biernassi, que vous connaissez dans On va déguster.
Et Xavier Mathias, l'historien dans la bande dont on va déguster.
Xavier Mathias, notre jardinier, votre serviteur, et aussi un bel article sur Rabelais.
Les planètes sont alignées. Un grand merci Dominique Hutin, merci beaucoup Elvira. A très bientôt et merci évidemment Blois. Deuxième émission à Blois en quelques années. Je peux vous assurer que toutes les villes de France ne peuvent pas en dire autant. Merci au Rendez-vous de l'Histoire pour cet accueil très chaleureux. Et les Rendez-vous de l'Histoire, justement, c'est jusqu'à tout à l'heure avec une programmation très riche. On se retrouve dimanche prochain à la même heure pour une émission, attention, consacrée à une herbe aromatique de caractère, la sauge. Salvia en italien. Je dis ça parce qu'il y aura ma complice italienne Alessandra Pierini et justement notre pote du potager que vous évoquiez, Xavier Mathias. À dimanche prochain, si vous avez encore faim. Dans un instant, question politique avec Thomas Negaroff.